Bon réveil si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2016 et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors que la bataille pour Mossoul se prépare en Irak, deux militaires français ont été blessés par une attaque au drone, une nouvelle arme dans l'arsenal des djihadistes qui tiennent la deuxième ville du pays.
François Hollande se livre à l'Obs, entretien fleuve dans l'hebdo apparaît demain. Ludovic Piétenu, chef du service politique, analysera pour nous les premiers extraits.
La grève du zèle poursuivie par le syndicat de police Alliance, pas convaincu des annonces de Manuel Valls hier. Les voitures de police en zone sensible vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, voire de blindage après l'agression au cocktail Molotov de 4 agents samedi dans l'Essonne. À 7h13, dans le billet économique, Marie Viennot évoquera l'indignation des fonctionnaires européens sur le cas Barroso. Ils remettent aujourd'hui à Bruxelles une pétition pour réclamer des mesures exemplaires.
Et puis la question du jour, les liens entre le drame de Viry-Châtillon et le trafic de drogue, comment lutter contre l'un pour prévenir l'autre. Et le sujet du jour, la réticence au vaccin, la résistance aux antibiotiques, notre médecine est-elle malade ?
C'est la deuxième ville d'Irak, la plus grosse agglomération prise par le groupe État islamique, capitale autoproclamée du califat, Mossoul, tombée en juin 2014 aux mains des djihadistes, compterait encore 1,5 million d'habitants. Pendant que l'armée irakienne et ses alliés se préparent à reprendre la ville, les djihadistes truffent, eux, la ville de bombes, explosifs disposés sur les 5 ponts de Mossoul, femmes et enfants en relais de force pour servir d'informateurs à Daesh. C'est ce qu'indiquent ce matin des responsables irakiens et américains. Et l'on apprend que 2 militaires français ont été blessés par une attaque au drone en Irak. Les 2 commandos parachutistes opéraient aux côtés des Peshmerga kurdes qui combattent actuellement l'État islamique entre Mossoul et Erbil. Ils ont été rapatriés pour être soignés à l'hôpital militaire Percy de Clamart. L'attaque remonte au 2 octobre. Elle a été menée au moyen d'un drone piégé, une nouvelle arme dans l'arsenal des djihadistes, Jérôme Jadot.
Ce n'est pas la première fois que l'État islamique utilise des drones. Au début, il s'agissait de photographier ou filmer les positions ennemies. Mais depuis quelques mois, le Pentagone s'inquiète d'engins volants équipés de bombes artisanales. C'était le cas de celui qui a blessé les 2 militaires français. Un petit drone comme on en trouve facilement sur les marchés irakiens, muni d'une charge qui a explosé quand les commandos parachutistes ont tenté de l'intercepter alors qu'il se posait. 2 Peshmerga kurdes ont eux été tués. Peshmerga aux côtés desquels les forces spéciales françaises, environ 200 hommes, sont présentes ici dans la région d'Erbil. Elles devront désormais prendre en compte cette menace venue du ciel. Il y a 3 jours, dans le même secteur, un autre drone piégé a lui pu être détruit par des miliciens anti-Daesh. L'usage de ces drones reste toutefois limité, nous assurait hier le général qui dirige l'offensive contre l'État islamique, ajoutant que les avions de la coalition visent les lieux d'où ils sont envoyés.
Jérôme Jadot, envoyé spécial de France Culture en Irak. En Syrie, Alep replonge dans l'enfer des bombes. 25 civils tués hier dans ces raids menés par Damas et Moscou, les plus violents depuis plusieurs jours. La cible, encore et toujours, les quartiers contrôlés par les rebelles à l'est d'Alep, deuxième ville du pays. Pour témoigner au plus près de cette tragédie, France Culture s'installera demain à Beyrouth, au Liban, avec les matins de Guillaume Erner, des reportages signés Valérie Crova, mais aussi le grain à moudre dès 18h20 avec Hervé Gardette. La Syrie, point de tension entre la France et la Russie. Hier, François Hollande s'est dit prêt à rencontrer à tout moment son homologue russe, Vladimir Poutine, mais à condition que cela puisse faire avancer la cause de la paix. Déclaration alors que la Russie est accusée de crimes de guerre à Alep et que le président russe a annulé une visite prévue le 19 octobre à Paris pour l'inauguration d'un centre orthodoxe dans la capitale. Et en cette période tendue avec la Russie, à 7 mois surtout de la présidentielle, François Hollande accorde un entretien à l'Obs à paraître demain. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Catherine.
Et en une de l'Obs, le chef de l'État se dit prêt, mais prêt à quoi Ludovic ?
François Hollande est prêt à l'inventaire sur ses 60 engagements de 2012. Les Français vont pouvoir comparer, dit-il, non pas ce que j'ai fait avec ce que j'avais promis, mais plutôt ce que j'ai fait et ce que proposent ceux qui prétendent nous remplacer. Et de tacler Juppé, dont il réinterprète l'identité heureuse en solidarité malheureuse, et de renvoyer dos à dos tous les candidats à la primaire de la droite à un programme commun de régression. Ce n'est pas un « je suis candidat » franc et massif, mais donc un « je suis prêt » qui barre demain la une de l'Obs. C'est un François Hollande à peine souriant, plutôt déterminé, qui apparaît en gros plan sur la couverture de l'hebdomadaire, un peu façon les yeux dans les yeux. Et avant de lâcher ce « je suis prêt », répondant à la question « êtes-vous toujours de gauche ?», il défend son bilan et c'est bien ce qu'il a déjà commencé à faire depuis la rentrée. La priorité donnée à l'éducation, c'est une politique de gauche. Il affirme avoir réduit les inégalités fiscales, permis des avancées sociales, et il y en a eu, ponctue le président. Les journalistes lui font part du désarroi à gauche provoqué par exemple par la loi El Khomri. Le président se justifie, c'est une loi sociale, elle institue le compte personnel d'activité, elle généralise la garantie jeune, elle renforce le droit syndical et favorise le dialogue dans les entreprises. Tout ce que je viens de dire est de gauche, insiste François Hollande qui dans les extraits que l'Obs a bien voulu dévoiler ce matin, ne dit à aucun moment comment, par quel moyen, par quel chemin il compte réconcilier une majorité de Français avec sa personne.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu. François Hollande qui esquisse un début de mea culpa sur la réponse de l'exécutif face aux attentats. Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos du 13 novembre et lui lâché par ses avocats. Franck Berton de s'expliquer aux côtés du Belge Sven Marie. On a décidé l'un et l'autre de renoncer à la défense d'Abdeslam. Nous avons la conviction qu'il ne s'exprimera pas et qu'il appliquera le droit au silence, a-t-il déclaré à nos confrères de BFM.
7h06, la suite du journal sur France Culture. Catherine Dutu, des voitures blindées contre le caillassage et des uniformes ignifugés. C'est la réponse du gouvernement face à la colère des policiers.
4 jours après l'agression de 4 agents blessés et brûlés par des jets de cocktails Molotov à Viry-Châtillon dans l'Essonne, les moyens matériels annoncés hier par Manuel Valls sont jugés insuffisants par le syndicat de police Alliance de l'Essonne. Il réclamait notamment 300 policiers en plus sur le département, au lieu des 45 annoncés par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Claude Cario, délégué départemental du syndicat Alliance dans l'Essonne, reconduit donc son appel à la grève du zèle des policiers.
Notre mobilisation continuera tant que nous n'aurons pas de réponse précise. Pour le département de l'Essonne, nous on demande, avant de parler de manière générale sur les tenues et tout le reste, on demande une réponse sur les effectifs, les 300 gradés et gardiens de la paix que l'on demande. On est sur le budget alloué au commissariat pour le fonctionnement et la sécurisation des locaux. Et on est sur les questions de protection de personnalité et de surveillance des domiciles des personnalités. Mes collègues patrouillent, continuent leur travail habituel, si ce n'est qu'ils ne font plus d'initiative. Ils ne travaillent plus que sur réquisition ou sur appel police-secours. S'ils voient quelque chose qui se passe, eh bien écoutez, ou à l'individu qui leur paraît suspect, ils ne le contrôlent pas.
Claude Cario, délégué départemental du syndicat Alliance dans l'Essonne. Du côté des riverains, à présent, dans le quartier de la Grande Borne, entre Viry-Châtillon et Grigny, les attentes sont bien loin des revendications policières, comme l'a constaté Armel Balagog.
Chacun d'un côté du carrefour réputé dangereux, chacun avec des opinions différentes. Tout près du lieu des événements de samedi, j'ai rencontré Yveline. Depuis 20 ans, son appartement donne sur l'entrée du quartier de la Grande Borne. Mais elle habite de l'autre côté de la départementale, à Viry-Châtillon, dans une cité pavillonnaire. Yveline a une vision très pessimiste.
Du fait que ces cités sont des zones de non-droit, et même en mettant 1000 policiers de plus, j'ai un gros doute que ça serve à quelque chose.
De l'autre côté de la départementale, dans le quartier est très décrié de Grigny, même pessimisme, mais pas pour les mêmes raisons. Ici, peu de personnes acceptent de parler à part Auger et ses amis anonymes. Ils condamnent les événements, mais ils essaient aussi de comprendre. Ils décrivent l'abandon du quartier de la Grande Borne par les autorités.
Et avant, il y avait le commissariat de proximité. Les policiers, ils connaissaient au moins les grandes personnes du quartier. Ils ont mis des nouvelles personnes, ils font de la répression, c'est tout. Personne ne fait rien pour nous. Une cité de 30 000 habitants n'a pas une poste. La poste, elle est à Grigny Village. Il n'y a pas de commerce.
Déjà, ils économisent.
Quand on leur demande quelle serait alors la solution autre que des renforts policiers, ils répondent communication.
Le renfort, c'est pas ça la solution. C'est s'intéresser à la vie des jeunes. Ils feraient des démarches, ils venaient à l'encontre des jeunes. Juste ça, ils n'arrivent pas à venir parler. Par exemple, ils font une rénovation pour une MJC. Mais madame, j'ai 23 ans, je vais faire quoi? Moi, je joue au baby-foot. On cherche quelque chose de sérieux.
Selon eux, le problème, c'est qu'il n'y a aucune perspective pour les jeunes ici. Et en effet, le taux de chômage est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Alors, les jeunes s'ennuient, certains font de mauvaises rencontres et pensent à l'argent facile du trafic de drogue. Un cercle vicieux qui, avec des événements comme ces derniers, les isole de plus en plus.
Un reportage signé Armel Balagog. L'agression de 4 policiers dans l'Essonne qui a fait également réagir Nicolas Sarkozy hier lors d'un meeting à Archamps, en Haute-Savoie. Inadmissible pour l'ancien chef de l'État d'entendre le ministre de l'Intérieur qualifier de sauvageons les agresseurs de policiers. Ce sont des criminels, des caïds, des racailles, a déclaré le candidat à la primaire de la droite et du centre. Une primaire où 600 élus centristes devraient apporter leur soutien à Alain Juppé dans un texte initié par Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, et Laurent Hénard, président du Parti radical. Ils affichent leur préférence pour le maire de Bordeaux selon l'opinion datée de ce matin. La primaire de la droite et du centre, où pourraient se glisser des électeurs de gauche, on y revient longuement dans le journal de 7h30 avec le choix de la rédaction. Des affrontements entre l'armée birmane et des hommes armés ont fait 12 morts hier dans l'état Rakhine à l'ouest du pays. La grande majorité des habitants de cette province sont des Rohingyas. Le processus de paix qui a décidément du plomb dans l'aile en Birmanie, la deuxième plus importante rébellion armée du pays, menace de se retirer des négociations de paix dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Une vingtaine de groupes ethniques rebelles affrontent l'armée gouvernementale. Ils réclament davantage d'autonomie. La conseillère d'état Aung San Suu Kyi a relancé fin août le processus de paix, mais ses efforts sont maintenant mis en péril. La correspondance de Rémi Favre.
La rébellion Kachin prévient, elle suspendra sa participation au processus de paix si l'offensive se poursuit. Elle lance même un avertissement. Le conflit s'étendra à d'autres régions de l'État Kachin si les militaires birmans reconduisent leurs raids aériens. L'armée pour l'indépendance Kachin réplique donc par des menaces politiques et militaires. La rébellion avait participé aux premières négociations de paix convoquées par Aung San Suu Kyi fin août. La conseillère d'État avait alors relancé le processus avec un certain succès dans un premier temps, puisqu'elle avait rassemblé presque tous les groupes rebelles à la capitale, tous sauf trois. Mais depuis, une insurrection s'est retirée des pourparlers. Les Kachin menacent maintenant de faire de même, mettant en péril le processus de paix. Le conflit dans cette région du nord du pays s'est intensifié ces dernières semaines. Des témoins indiquent que l'armée birmane utilise des hélicoptères de combat pour pilonner les positions de la rébellion. En début de mois, un enfant Kachin de 2 ans a été tué par un tir d'artillerie. 2 autres ont été grièvement blessés. La semaine dernière, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de la plus grande ville de l'État Kachin pour exiger la paix, car depuis 2011, 100 000 civils ont dû fuir leur village dans cette région. La plupart d'entre eux ont trouvé refuge dans des camps situés le long de la frontière chinoise.
Rémi Favre à Rangoon pour France Culture. Le temps de ce mercredi 12 octobre, nuageux dans la moitié sud du pays, gris et frais au nord. Les températures sur une bonne moitié nord-est du pays, elles seront voisines ce matin de 0 degré, puis comprises cet après-midi entre 11 et 15 degrés. Plus élevées de la Bretagne au sud-ouest et près de la Méditerranée, les températures iront de 5 à 12 degrés ce matin, 15 à 19 au meilleur de la journée, jusqu'à 21 degrés en Corse.